Alors, je voudrais pouvoir vous dire une chose, c'est que si vous voulez un petit Jésus dans votre vie, croyez-moi, vous aurez un petit Jésus. Le Seigneur est grand, tout le monde le dit. Si je viens vous voir à côté de vous, et que je, comment tu trouves le Seigneur ? Il est grand ! Mais dans votre vie, si vous voulez un petit Jésus, vous aurez un petit Jésus. Moi, je suis atteinte de 5 maladies différentes. Je les ai reçues 2 ans après ma conversion, dont une qui est sérieuse, puisque je marche moins bien. Mais le Seigneur ne m'a jamais lâchée une seule seconde. Je préfère être comme ça, je vous assure, qu'avec des jambes. Pourquoi ? Parce que si j'étais en pleine forme et que je vous faisais, je ne sais pas moi, une démonstration magnifique de danse, ou je ne sais pas, vous diriez, waouh, c'est merveilleux. Mais non, je suis malade. Parfois, je ne vais vraiment pas bien, mais je ne lâche pas. Je ne lâche pas parce que le Seigneur ne me lâche pas. Et donc, ce qui est important que je voulais vous dire ce matin, c'est ne réduisez pas le Seigneur dans votre vie à la hauteur des problèmes que vous avez. Parce que ça va très vite, ça. Et moi, je l'ai vécu trop longtemps, j'ai perdu du temps. Parce que je pensais qu'avec tout ce que j'avais, le Seigneur m'avait laissé tomber. Mais non. J'ai eu un enfant, nous avons eu un enfant, et cet enfant, quand il est arrivé en fin de troisième, on nous a dit, oh, vous savez, il est bête. Il va falloir songer à lui faire faire un CAP, pardon, mais ou peut-être même pas d'ailleurs, parce qu'il est difficile d'en l'enseigner, il est dur d'entendement, il veut rien apprendre, enfin bref, il est fanfaron, tout ça. Aujourd'hui, il est chercheur en médecine. Parce que Dieu ne nous abandonne pas. Et donc, il y a 28 ans, un peu plus, j'étais dans un grand hôpital à Paris et on me dit, madame, vous savez, vous allez pouvoir marcher peut-être 1 an ou 2, pas plus. Aujourd'hui, nous sommes 29 ans plus tard et je tiens encore debout. Je marche avec des cannes, mais je tiens encore debout. Tout ça pour vous dire, c'est vraiment, quel que soit ce que la sœur tout à l'heure, j'ai oublié son prénom, elle a du feu dans son cœur, mais je vous assure que si elle éteint la présence de Dieu dans sa vie, ce ne sera plus la même. Je ne sais pas à qui je parle là ce matin, mais peut-être que vous avez besoin de redonner au Seigneur dans votre vie sa réelle dimension. Votre problème est énorme. Moi, j'ai été violée à l'âge de 4 ans. Et j'ai été violée à l'âge de 17 ans. J'avais des envies de meurtre pendant des années. Je voulais tuer au moins la personne que j'avais reconnue parce que j'avais 17 ans à l'époque, la deuxième fois. Ben ça, le Seigneur me l'a enlevé. Et j'ai pu pardonner. J'ai pleuré parce que c'est pas juste. Vous savez, quand votre père... Parce que à l'époque, il n'y avait pas les thérapies, tout ça, ça n'existait pas. Donc, en fait, puis même le viol d'un enfant, c'était inconcevable. J'ai 57 ans. À cette époque-là, on ne disait pas que quelqu'un pouvait avoir été abusé sexuellement quand on était tout petit. Et un jour, c'était le matin de Noël, j'étais avec mon mari. J'ai dit, papa, je me rappelle quand j'étais tout petite, un jour, je suis tombée. Et mon père aussi, j'ai grandi dans une famille où on ne m'aimait pas. Et bon, c'est comme ça. Où mon père ne m'aimait pas du tout. Bon, bref. Et un matin de Noël, il me dit, je lui demande pourquoi je suis tombée comme ça. Il me semble que j'ai perdu connaissance. Et comme ça, tout d'un coup, il me dit, au matin du petit déjeuner de Noël, tu as été violée. J'ai compris pourquoi j'avais tant souffert à l'école et pourquoi j'étais agoraphobe et pourquoi tout ça. J'ai compris. J'étais déjà convertie, Antoine. Ça faisait à peu près 1 an. Un peu plus, peut-être. Il est en train de me dire, non, tu n'étais pas encore converti. Bon. En tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que quel que soit ce que vous allez traverser, si vous redonnez sa dimension au Seigneur dans votre vie, acharnez-vous, vous le verrez tel qu'il est. Il est tout puissant. Mon père qui ne m'aimait pas, j'ai encore le temps ou pas ? Mon père qui ne m'aimait pas et qui m'avait, pour ainsi dire, rejeté, bon, il avait souffert, il avait perdu un fils du cancer. Il est né en Égypte, hein, donc, et à cette époque, c'était avant 1950, donc vous voyez un peu la chirurgie et tout. Le petit n'a pas tenu le coup, bref. Et donc, mon père ne m'aimait pas, mais parce qu'en fait, au fond de lui, il était vraiment blessé. C'était un homme qui était détruit. À l'âge de 83 ans, mais un peu avant, en fait, non, parce que 83 ans, c'est quand il est décédé, mais une dizaine d'années avant, il a donné sa vie au Seigneur. Ma mère, avec lui, en même temps. Et lui qui me méprisait, qui m'insultait, qui me disait que j'étais stupide, pendant toutes ces années-là, par la suite, il m'appelait et prenait conseil. Qu'est-ce que tu en penses, Clarence ? Comment tu vois ça ? Comment tu vois ça ? C'est beau, hein ? Donc, j'ai pu aimer mon papa pendant une dizaine d'années. Voilà. Et 48 heures avant qu'il ne meure, il est venu me visiter. Il a fait 400 kilomètres à 83 ans. Dans l'état où il était, parce qu'il aurait dû être opéré du cœur, mais ils l'ont pas fait. Bon, bref. Et il est venu, et passez-moi l'expression, mais il perdait même ses urines, le pauvre, donc il n'en pouvait plus. Mais il est venu chez moi. Et ça, c'est un cadeau du Seigneur encore. Voilà, donc, donnez au Seigneur sa vraie dimension dans votre vie, je vous en supplie. Ne le laissez pas, le petit Jésus, sur la crèche ou je ne sais pas où votre Bible, je ne sais pas, dans une bibliothèque. Entretenez votre relation avec le Seigneur et vous le verrez, hein. Il agira. Amen.
Bien prendre en face.
Merci Clarence.
Alléluia. Bon, je ne sais pas si ça marche. C'est bon, je ne sais pas si ça marche. Si, je pense.
C'est bon.
C'est bon.
C'est
tout bon. Bon. Bonjour à tous. C'est une joie d'être là. Une joie. Merci à vous tous de nous accueillir. Merci à Antoine et Christiane. On vous aime. Non seulement, bien sûr, on aime la famille Nosek, parce que Antoine, on l'a connu il y a 30 ans à l'école biblique, 1994 à Évry avec Vincent. Où des jeunes comme nous qui découvrions le Seigneur depuis quelques années, eh ben on a reçu plein de choses de leur part. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité et ton amour. Merci pour ces temps, Seigneur, de partage de ta parole. Seigneur, cette parole qui est une lampe à nos pieds. Cette parole qui est un guide, un conseil. Cette parole qui est la vie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus parce que tu te révèles à nos cœurs. Gloire te soit rendue. Au Saint des Saints. Amen. Alléluia. Alors je vais sortir ma petite tablette parce qu'on est quand même à l'heure du numérique. Mais au cas où, j'ai quand même prévu mes petites notes en papier parce que parfois le numérique, c'est pas toujours ça. On va passer sur les notes en papier, ça sera mieux. Alléluia. Alors, Lorsque Antoine m'a dit « ce serait bien que tu viennes à l'église Le Phare pour apporter quelque chose », j'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter à cette assemblée ?» Mais c'est lui qui donne. C'est lui qui nous conseille. Mais quand il nous demande d'apporter quelque chose, il nous apporte à nous aussi. Et lorsque nous apportons la parole et que nous la partageons aussi entre nous. Et le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose, c'était « Pourquoi ne pas se confier en l'Éternel ?» Bien souvent dans nos vies, nous allons prendre des décisions comme ça, hop, on fait, et puis elles vont avoir des répercussions autour de nous qui ne seront pas forcément les bonnes. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on a cherché la face du Seigneur pour dire « Seigneur, est-ce que ce que j'ai fait, c'est ta volonté ? Est-ce que je suis dans ce que tu veux ? Est-ce que je suis dans ton plan ? Est-ce que je suis dans ta direction ?» Parfois oui, et peut-être souvent non. Est-ce que nous recherchons à chaque fois le conseil de l'Éternel, le conseil de Dieu pour nos vies ? Alors, ça peut être dans la prière, mais c'est aussi dans sa parole. Alors pour cela, j'ai une petite anecdote, d'abord qui concerne notre vie à tous les deux avec mon épouse. C'est notre rencontre. Lorsque je l'ai rencontrée, et ça fait 34 ans bientôt qu'on est mariés, je ne connaissais pas le Seigneur, comme je le connais aujourd'hui. De temps en temps, j'avais des moments de prière. Oui, c'est vrai, j'avais des moments de prière, parce que pour moi, Dieu existait. Oui, c'est vrai, il existait. Mais je n'avais pas cette relation, ce cœur à cœur avec lui. Je ne le connaissais pas personnellement. Et là, parce que j'étais un garçon qui, comme beaucoup de jeunes à l'époque, hein, j'avais 22 ans, c'était les discothèques, avec bien sûr tout ce qu'on sait, hein, les filles, etc. Une vie, bref, du monde, purement. Hein. Alors j'étais un gentil garçon, je n'étais pas un voleur, j'étais pas. Mais d'un autre côté, je n'étais vraiment pas dans les pas de ce que demande le Seigneur. Et j'ai été dégoûté de cette vie, dégoûté de courir les discothèques et tout ça. Et j'ai eu un moment de prière, et j'étais sur la terrasse chez mes parents, et je prie et je demande, « Seigneur, j'aimerais rencontrer la femme avec laquelle je vais faire ma vie. » 3 jours après, je rencontre mon épouse dans un lieu improbable où elle ne devait pas aller et où je ne devais pas aller. C'était à l'anniversaire d'une amie à elle d'école, d'une copine d'école, qui, cette copine d'école, était une ancienne copine d'école de ma sœur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elles n'avaient pas de chenifi pour faire la petite soirée d'anniversaire. Donc ma petite sœur vient me voir en disant « Ah, je suis embêtée, j'ai une copine, elle fait un anniversaire, elle n'a pas de disque, tu ne veux pas prêter 2-3 disques ?»« Bon, bah si tu veux. » Et au fait, elle n'a pas de chenifi aussi, tu ne veux pas passer « Bon, bah si tu veux. » Ouais, mais je lui dis « Qui c'est qui va passer les disques ?» Parce que moi j'y tiens, hein, c'était les 33 tours à l'époque. Et je lui dis « Je vais venir. » Dans ces cas-là. Alors, je suis allé installer la chaîne IFI, et puis j'ai discuté un peu, et puis je me suis tapé l'incruste, en disant, au fait, est-ce que je pourrais pas venir ? Ah ben, viens. Et c'est là que j'ai rencontré mon épouse, qui, normalement, elle, ne devait pas venir non plus. Et ça fait 34 ans, maintenant, qu'on est mariés. Alléluia. Comme quoi, le Seigneur nous conduit, et même là, alors que je ne le connaissais pas, le Seigneur nous a conduits, et on est toujours ensemble. Gloire à l'Éternel. N'oublions pas que nos décisions peuvent avoir des conséquences, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Si je fais un mauvais choix, je peux entraîner avec moi des membres de ma famille dans ce mauvais choix. Mais si les choix que je fais, je les fais dans la direction et la vision du Seigneur, c'est la bénédiction qui va être là. Et s'il y a des épreuves, parce qu'il y aura toujours des épreuves, le Seigneur sera là et nous aidera à les traverser et nous fortifiera. Le psaume 3, verset 5-7, nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. De quelle manière est-ce que je confie ma vie au Seigneur ? Est-ce que je le fais de manière sincère, véritable, en disant « Seigneur, voilà, je me présente devant toi, tu es le maître, c'est toi qui me conduis ?» Ou est-ce que je dis « Bon, ok Seigneur, je fais ta volonté. » Comment ? Quel est l'état de mon cœur ? Est-ce que je suis vrai avec le Seigneur ? Ou est-ce que, voilà, c'est comme ça me prend ? Alors, je vais vous raconter une petite anecdote encore, parce que c'est bien par rapport à ce que l'on connaît de nos vies, parce que quand on a vécu des expériences avec le Seigneur, on peut en parler de manière sincère. Donc, avec mon épouse, on s'est mariés et je travaillais à l'époque dans une société de tôlerie, chaudronnerie mécanique, je faisais des chantiers industriels. Et j'avais un patron qui était un patron. Et il me disait toujours que les augmentations allaient arriver, elles n'arrivaient jamais. Et au bout d'un moment, j'ai dit, je ne vais quand même pas en rester là. On était jeunes mariés. Et il y avait un ancien chef d'équipe, un chef d'équipe qu'on avait, qui était un ancien dans l'entreprise. Et il aimait bien régulièrement jouer au tiercé. Et il ouvrait, il avait son journal, il faisait son tiercé, etc. Et là, moi, je le vois, il faisait son tiercé. Il y avait un panneau, ben, un panneau, une publicité dans le journal. C'était marqué « Devenir gendarme ». Ah, j'ai dit, tiens, pourquoi pas, après tout, hein, c'est pas un métier plus qu'un autre, hein, pourquoi pas, on sait jamais. Et donc, je dis, ben, pourquoi pas. Donc, je vais à la gendarmerie locale, je m'inscris pour passer le concours. Et là, arrive l'épreuve des présélections, parce qu'il y avait des présélections avant. Et si on était recalé, ben, on n'allait pas aux sélections, donc il y a des présélections. Et la gendarmerie était juste en face de notre appartement, hein. Je faisais 400 mètres, même pas 300 mètres, c'était rue Massenet à Grenoble, la gendarmerie était en face. Et je prie en disant, parce que j'avais ces moments de prière, je ne connaissais pas encore le Seigneur, hein, mais l'œuvre du Seigneur était déjà en route. Parce que non seulement il avait touché mon cœur pour que je n'ai plus envie de vivre cette vie de discothèque, et il a permis que je rencontre mon épouse, mais son plan était en œuvre pour la suite de notre vie. Et je prie en disant, Seigneur, j'ai besoin d'un coup de main, hein, parce que je ne sais pas ce qu'ils vont demander. En plus, je n'avais jamais passé de concours. Je n'avais pas préparé quoi que ce soit. J'y suis allé comme ça. Et là, ben, j'y vais et je réussis les présélections. Bon, réussis les présélections. Je suis convoqué pour passer les sélections à Lyon. Je réussis les sélections à Lyon. Et j'intègre l'école militaire à peine plus d'un an après. Et là, c'est parti pour une formation à Montluçon. Et en sortant de l'école militaire, donc on a un amphi, hein, où on choisit avec son classement au niveau des places. Et là, le Seigneur fait qu'on se retrouve en région parisienne, dans le Val-de-Marne, la Nationale 7 d'un côté, l'aéroport d'Orly de l'autre, le mine de Rungis ici. Bref, nous qui venions de Grenoble avec Clarence, avec des montagnes tout autour, ça a été le choc thermique. Mais c'était le plan du Seigneur. Parce que là où on était dans le Val-de-Marne, à 12 km ou 13 km de là, il y avait Tantiolan, Tata Yoyo, qui était converti à l'évangile. Un tout petit peu plus bas, à 25-30 km, il y avait le centre évangélique protestant à Évry. Et encore un tout petit peu plus bas, même pas une dizaine de kilomètres, la cousine de Clarence qui était convertie et dont le mari, Bernard, était ancien dans l'église. Et si bien que lorsque j'étais de permanence, tante Yolande passait récupérer Clarence à la maison et elle l'emmenait à l'église. Et c'est comme ça que Clarence, petit à petit, est allée à l'assemblée, elle a entendu parler du Seigneur et elle s'est convertie. Moi, ça a été un peu plus compliqué. Ça a été un peu plus compliqué, mais le Seigneur a touché mon cœur et je suis là aujourd'hui. Et c'est surtout ça qui est important. Et donc, par la suite, dans le cadre de ma carrière, le Seigneur a fait que j'ai pu passer des examens, j'ai pu passer des diplômes. La gendarmerie m'a envoyé à l'université, j'ai suivi des cours. J'ai passé un master 2 en sciences criminelles. Et après, bah, j'ai évolué et je travaille maintenant dans un service interministériel d'investigation. Donc, pour en revenir à la confiance que l'on met en l'Éternel, on a dans Deutéronome 32,4 qui nous dit « Il est un rocher, c'est solide. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité, il est juste et droit. » Confier sa vie entre les mains du Seigneur, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Lui remettre toute chose. Parce qu'il est maître du temps et des circonstances. Et si on lui fait confiance, eh bien on doit tout gagner. On sait tous, on connaît tous le dicton qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Alors, en fin de compte, c'est par rapport à l'apparence que l'on est, on va dire, bah tiens, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Si je vous avais dit que j'étais analyste criminel, est-ce que vous l'auriez cru ? Non. Et pourtant, je le suis. Dieu n'est pas un Dieu d'apparence. C'est le Dieu du salut. C'est le seul et unique vrai Dieu. Nous allons voir dans les Écritures un passage où le peuple d'Israël a été trompé par les apparences. Nous avons ça dans le livre de Josué, au chapitre 9, versets 3 à 16. C'est la ruse des Gabaonites. Qui était Gabaon ? C'était des Éviens. C'était un peuple que l'Éternel avait demandé à Israël de vouer par interdit. Et lorsque ce peuple-là a entendu parler de ce qui s'était passé à Jéricho et à Haï, ils ont dit, on va ruser. On va se mettre des vieux habits, on va prendre des vieilles outres de vin, des vieilles chaussures, du pain sec, et on va aller les trouver, on va dire, voilà, on a fait des centaines de kilomètres pour venir vous voir, et quand on est venu, à l'origine, quand on est parti, on avait des vêtements qui étaient neufs, des chaussures qui étaient neuves, notre nourriture, elle était fraîche, elle sortait du four, et regarde comment on est. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Josué et les princes d'Israël ont donné du crédit à ce qu'ils voyaient. Ils ne se sont pas confiés en l'Éternel. Alors que juste avant, ils avaient pris une leçon avec la ville de Haï. Souvenons-nous, la conquête de la terre promise, Jéricho. Josué et le peuple d'Israël obéit à l'Éternel. Ils ont fait confiance en l'Éternel. En toute chose, ils lui ont fait confiance. Pas un n'a parlé pendant qu'ils faisaient le tour de la ville, parce qu'ils avaient reçu des ordres, et ils les avaient respectés. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ils avaient respecté la direction de l'Éternel, ils avaient fait confiance en ce Dieu puissant. Et les murs se sont effondrés, et ils ont gagné la ville. La forteresse est tombée. Par contre, quand arrive la ville de Haï, là il y a un souci. Bien sûr, avant, il y avait eu cet homme qui avait pris les lingots et la tunique qu'il avait cachée chez lui, et si bien que quand il monte à l'assaut de Haï, plutôt que s'en remettre d'abord à l'Éternel, se tenir, voilà, Seigneur, il y a la ville de Haï qui est devant nous, qu'est-ce qu'on fait ? Le Seigneur aurait révélé le péché qu'il y avait en Israël. Sauf que là, ça peut être le cas. Ils se sont fait confiance en eux-mêmes et ils sont montés à l'assaut. Ils ont dit, oh, on n'a pas besoin de beaucoup d'hommes, ils ne sont pas nombreux, on y va, on va leur mettre une raclée. Sauf que la raclée, c'est eux qui l'ont pris. Et là, ils se sont dit, mince. Et ils ont prié, ils se sont tenus, ils se sont humiliés devant le Seigneur. Et là, le Seigneur a révélé le péché. Et après, ils sont montés à l'assaut et ils ont gagné la ville de Haï. Et là, quand ces Éviens arrivent, ils auraient dû faire pareil, se tenir devant le Seigneur en disant, est-ce que ces hommes-là viennent vraiment de loin ? Non ? Ils se sont encore fait confiance en eux-mêmes. La nature humaine a repris le pas. S'ils avaient été des hommes spirituels, ils auraient recherché la face de Dieu. Et le Seigneur aurait révélé en disant, attention, ce sont des Éviens, ils sont à 3 jours de marche. Mais à cause de cela, ils ont fait une alliance avec eux au nom de l'Éternel et ils ne pouvaient plus revenir dessus. Si bien que quand ils ont découvert la supercherie, ils ne pouvaient pas les éliminer. Donc ils ont dit, ben, vous serez nos esclaves, vous porterez pour nous de l'eau et vous couperez du bois. Mais le péché était déjà au cœur d'Israël avant même que la terre promise ne soit conquise. Comment est-ce que nous faisons face aux forteresses qui se dressent devant nous ? Jéricho, c'était la forteresse qui se dressait devant Israël. Le peuple a suivi ce que Dieu a demandé. Mais nous, face aux forteresses qui se dressent devant nous, est-ce que nous recherchons la face du Seigneur ? Est-ce que nous recherchons sa volonté ? Est-ce que nous sommes là, en nous tenant au pied du Maître, en disant, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Laisse le Seigneur combattre pour toi. Laisse le Seigneur combattre pour toi. Si le Seigneur combat pour toi, tu seras vainqueur. S'il ne combat pas pour toi, si c'est toi qui le fais de tes propres forces, ça va être difficile et tu n'auras pas forcément la victoire. On a 3 leçons à tirer, on va dire, de cet épisode des Gabaonites. Le premier, c'est toujours faire ce que dit la parole de Dieu. L'Éternel nous donne le meilleur conseil pour nos vies. si nous ne le suivons pas, c'est notre responsabilité que nous engageons. Et on va aussi engager la responsabilité, entre guillemets, par ricochet, de ceux qui sont avec nous. La deuxième, c'est avant de prendre une décision importante, consulter l'Éternel. Le psaume 37,5 nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. » On a un exemple d'un homme grand, grand. Parce que, pourquoi je dis grand ? Parce que le Seigneur dit que c'est un homme qui était selon son cœur, c'est David. David, lorsqu'il était guerrier combattant, et je dis bien guerrier combattant par roi fainéant, lorsqu'il était guerrier combattant, il se remettait toujours à l'Éternel. Il consultait l'Éternel dans tout ce qu'il faisait. Il disait, Éternel, est-ce que je dois monter au combat ? Et l'Éternel lui répondait en disant, oui, tu peux, ou non, tu peux pas. Ou attends que d'entendre le bruit dans les mûriers, là, tu monteras. Par contre, une fois, et on a ça dans 2 Samuel, au niveau du chapitre 11, il n'est pas monté à la guerre comme il avait l'habitude. C'est Joab et les troupes qui y sont allées. Et lui, il est resté à Jérusalem. Il était un roi fainéant, pas un roi combattant. Et là, il s'est baladé sur les terrasses et il a vu Bathsheba. Il s'est renseigné pour savoir qui elle était parce qu'il l'a trouvée belle. Et on connaît l'histoire. Il a commis l'adultère avec elle et puis vu qu'il y avait un enfant qui arrivait, et ben, il a dit, bon, on va faire revenir son mari. Il ira avec elle et puis comme ça, la forfaiture ne sera pas vue, ça sera tranquille. Sauf que Uri était un homme droit vis-à-vis de ses soldats. Et il a dit, si mes soldats, eux, restent au combat, moi, j'irai pas dormir chez moi. Il n'y a pas de raison que eux soient au combat et que moi, je mène la belle vie. Et lorsque David a vu ça, et il a même essayé de le saouler à un moment pour dire, allez, au moins, il sera bourré. Eh ben non, ça n'a pas marché. Donc, il a trouvé autre chose. Il a dit, ben, je vais le faire éliminer. Donc, il a écrit une lettre à Joab en disant, place-le au mieux du combat, au plus fort du combat. Et puis comme ça, il mourra. Et c'est ce qui s'est passé. Mais le Seigneur n'a pas laissé les choses comme ça. Il a envoyé le prophète Nathan. Et Nathan est venu voir David. Et il lui a parlé par une parabole de la petite chèvre qu'un riche propriétaire avait dérobée à quelqu'un qui était plus pauvre. Et là, David, ça l'a mis en colère en disant, mais cet homme mérite la mort. Et Nathan lui a dit, mais cet homme, c'est toi. C'est toi. Dieu avait révélé le péché de son cœur. La troisième chose, enseignement qu'on peut tirer de cette histoire des Gabaonites, c'est ne pas prendre des engagements dont nous ne pourrions pas nous libérer. Qu'ont fait les Israël avec les Gabaonites ? Ils ont fait une alliance avec eux, au nom de l'Éternel. Ne pas nous engager si ce n'est pas dans les plans du Seigneur. Ne pas nous engager sur juste un sentiment de notre cœur. Par contre, nous engager dans les plans du Seigneur, dans sa volonté, là c'est autre chose. Parce que c'est lui qui ouvre les portes. Et c'est lui qui ferme les portes qui doivent être fermées. Dieu est un Père aimant et il nous invite, nous qui sommes ses enfants, à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais à la mettre en lui. En lui. Genèse 15,6 nous dit que Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa en justice. Abraham, celui qui est considéré comme le père de la foi, il a eu cette révélation du Dieu d'éternité. Le psaume 26,1 nous dit, c'est un psaume de David justement, on en a parlé, « Rends-moi justice éternelle car je marche dans l'intégrité ». Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Si je marche dans les pas de Dieu, c'est lui qui me soutient. Il est le rocher. On l'a vu précédemment. Et le psaume 40, au verset 4 ou 40, verset 5, selon les traductions, nous dit « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. N'oublions pas une chose. Dieu regarde au cœur. Chaque fois que nous prenons une décision, Dieu regarde au cœur. Imaginons que nous prenions une décision. On n'a pas consulté l'Éternel. Mais on l'a fait de manière vraie et sincère. Le Seigneur le voit. Et il mettra devant nous des choses pour nous faire comprendre en disant « Attention, là, tu n'es pas dans la bonne direction. » Mais si notre cœur n'est pas droit, ben le Seigneur va nous interpeller aussi. Mais si on ne veut pas écouter, on n'écoutera pas. Regardez l'exemple de Balaam. C'est même un âne que Dieu a fait parler pour qu'il puisse comprendre. Il a utilisé un âne. Dieu regarde au cœur. Et on a un très bel exemple là-dessus. C'est dans 1 Samuel, chapitre 16, versets 6 et 7. On a Samuel qui est envoyé pour oindre David. Saül est rejeté. Dieu ne le veut plus pour roi. Et il a vu David. Et quand Samuel arrive, il demande à voir les fils. Et là, les fils arrivent et ils voient Éliab, grand, costaud, fort, puissant. Waouh ! Et le prophète dit, ah, c'est sûrement lui. Et là, le Seigneur dit, non, c'est pas lui. C'est pas lui. Toi, tu regardes avec tes yeux. Mais moi, je regarde au cœur de l'homme. Le Seigneur nous dit que lorsque nous prions et que nous rentrons dans notre chambre, l'Éternel qui se tient dans le lieu secret nous voit. Il voit quoi ? Il voit notre cœur. Quand je prie, que j'intercède, quel est l'état de mon cœur ? Est-ce que quand je prie pour un frère ou pour une sœur, je prie avec amour pour lui ? Ou je prie parce qu'il faut prier ? Allez. Pasteur a dit qu'il faut prier pour les malades, je prie pour les malades. Allez. Seigneur, guéris les malades. Ou est-ce que vraiment dans mon cœur, j'ai reçu cet amour pour prier pour mon frère et ma sœur ? La parole nous dit que tout passera. Une chose ne passera pas, c'est l'amour. L'amour véritable. Nous avons ça dans 1 Corinthiens 13. Tout passera sauf l'amour. L'amour ne passera pas. L'amour véritable, l'amour qui vient de Dieu. L'amour qui vient du Seigneur s'est révélé où ? À Golgotha, à la croix. C'est l'apogée de l'amour. C'est terrible à dire, mais c'est vrai. Parce que c'est par amour que Christ est mort pour nous. Par amour. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. On était à l'école biblique avec Clarence, et puis à l'époque, on avait un 4x4 Niva, Lada, vous savez, les véhicules russes avant, on avait ça. Et le bouchon de réservoir, c'était des bouchons à vis. Ce n'était pas une clé qu'on tournait, c'était des bouchons à vis. Et j'étais jeune et fougueux à l'époque. Et on était pressé, le réservoir, le voyant s'était allumé, presque plus de carburant. On arrive à la station Leclerc à Orly, je me rappelle la station où c'était. Et là, on arrive et devant nous, il y avait des pompes qui étaient fermées, l'autre qui était ouverte, et il y avait un monsieur d'un certain âge qui essayait de faire le plein avec sa carte bancaire, etc. Et il n'y arrivait pas. Et moi, j'étais derrière, ça m'agaçait. Et ça m'agaçait. Et il mettait un temps, mais je ne sais pas, mais il mettait beaucoup de temps. Et ça m'énervait. Et Clarence me disait, calme-toi. Non, mais je suis calme. Non, mais calme-toi. Mais je suis calme. Bon, bref, le monsieur arrive à faire son plein, il s'en va, et moi, j'arrive, je garde la voiture, beau gosse, je descends. Et je vais pour ouvrir le bouchon de réservoir, niette, comme on dit. C'est du russe, hein, mais vraiment niette. Hein. Pas moyen de tourner le bouchon de réservoir. Bon, c'est pas grave. J'avais la caisse à outils dans le coffre. J'ouvre la caisse à outils. Et là, j'avais une pince multiprise, les grandes pinces multiprises, comme ça. Je dis avec ça, c'est bon. Je prends, je tourne, pas moyen. Je reprends, pas moyen. Bon, c'est pas grave. J'avais la caisse à outils. J'avais un marteau et un bédane. Un bédane, c'est un peu comme un style de petit burin. Et j'y vais, et pas moyen. Et là, Clarence me dit, tu as prié ? Mais ouais. Et là, le Seigneur me reprend en disant, mais quel état de ton cœur ? Comment est-ce que tu as prié ? Et là, j'ai dit, c'est vrai, Seigneur, pardon. Parce que vraiment, j'avais vraiment besoin, j'ai reconnu que j'étais complètement à côté. Hein. Vous voulez que je vous dise le bouchon? J'ai fait ça, il s'est ouvert tout seul. C'est l'humour du Seigneur. Hein. Et j'ai perdu plus de temps parce que je m'étais mis en colère que si je ne m'étais pas mis en colère pour faire le plein. Alléluia. Dieu prend plaisir à celui qui met sa confiance en lui. Une autre petite anecdote, j'étais à l'université. Et puis, dans le cadre du master que j'ai fait, j'avais 3 mémoires à faire et j'ai traité sur la matérialisation en gestion de la preuve pénale et à côté, j'ai traité 2 mémoires sur le terrorisme. Et j'étais en train de réfléchir. Bon, le Seigneur, c'est lui qui m'avait donné à la fois les plans, les thèmes, etc. Mais j'étais là et je cherchais une phase pour mon préface. Parce que chaque mémoire, j'avais un préface et je cherchais une phrase, quelque chose qui pouvait introduire tout ça et je réfléchissais, je ne trouvais pas. J'étais embêté. Les 2 premiers, j'avais. Mais celui-là, je ne trouvais pas. J'étais un peu en... Et j'ai un copain qui était avec moi à l'université. Il vient me voir. Il me dit, Gilou, écoute, je ne sais pas pourquoi. Je suis passé devant ce bouquin. J'ai eu à cœur de le prendre. Et puis, j'ai eu à cœur de te l'emmener. Peut-être qu'il ne te servira à rien, mais tiens. Et ce livre, c'est « Autopsie des terrorismes » de Noam Chomsky. Et en fin de compte, quand j'ouvre ce livre, la préface qui est faite est une préface de Solzhenitsyn. Ça correspondait exactement à la thématique que je traitais dans ce mémoire. Waouh ! Dieu, dans les petites comme dans les grandes choses, il est présent. Alléluia. 1 Pierre 5,6 nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu prend soin de nous. Avec Clarence, dans quelques semaines, alors je vais bientôt être retraité. Oui, ça ne se voit pas, mais je suis bientôt retraité. J'ai pris un peu des cheveux blancs. Dans quelques semaines, je vais être retraité. Je vais quitter mon travail d'analyste criminel. Et le Seigneur nous appelle, mon épouse et moi, à travailler avec lui à son champ. Et le champ où le Seigneur nous convie, on est quand même pas mal. On est en bord de mer. On est en Vendée. Il y a de la neige en ce moment. C'est rare, mais il neige. Mais voilà. Et le Seigneur nous a conduits là-bas. Alors pourquoi la Vendée? Ben, on ne sait pas. Il faut demander au Seigneur. On n'a pas de famille en Vendée. On ne connaissait pas la Vendée. On n'y avait jamais été. Mais le Seigneur nous a dirigés là. Il faut savoir que là où il nous a placés, les églises sont 45 km d'un côté, 45 km de l'autre. Et au milieu, il n'y a rien. Mais lui, il sait. Et lui, il sait. Et la maison qu'il nous a permis d'acquérir, on voulait une maison plein pied, elle est plein pied. On voulait du terrain dans un endroit, un peu de terrain dans un endroit tranquille, c'est le cas. On voulait qu'elle soit pas loin de l'océan, c'est le cas. On est à 6 ou 7 km de l'océan. Pas trop de travaux, c'est le cas. Qu'elle soit pas trop chère, ça a été le cas aussi. Merci Seigneur. Il a répondu, bah oui, parce que bah c'est comme tout, hein, c'est le nerf de la guerre. Hein. Et le Seigneur a fait eh ben, qu'on travaille, qu'on aille travailler là-bas. Et donc à partir du mois de février, on va déménager et on va dire qu'à compter du 1er mars, le temps de déballer un peu les cartons, de s'installer, on va pouvoir travailler à l'œuvre du Seigneur, avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui travaille avec nous. Nous, il nous invite, il nous dit, viens, suis-moi. C'est lui qui nous appelle. Mais lui, il travaille déjà à l'avance. On a commencé à avoir des liens avec une assemblée évangélique baptiste qui est au Sable d'Olonne. Et c'est vraiment des frères et des sœurs qui sont très, très... C'est des bons frères et bon, voilà, une bonne église, comme ici. Voilà, des... Et donc, Joël m'appelle en disant, écoute, il y a une sœur qui n'est pas très loin de chez toi. Elle est dans la souffrance. Elle ne peut pas avoir de visite parce qu'elle a des problèmes de santé importants. Elle ne peut pas être là où il y a du Wi-Fi, des ondes téléphoniques, etc. Elle a vraiment un syndrome très important. Et ben avec mon épouse, on était en Vendée il y a un peu plus de 3 semaines. Et ben on est allé la visiter. On a fait notre première visite pastorale. On est allé la visiter. On a passé du temps avec elle. On a prié. Et puis là, ben régulièrement, on l'appelle au téléphone. On envoie un petit mail. Et puis on échange par courriel. Le Seigneur bâtit. Le Seigneur bâtit. Mais... il faut lui faire confiance. Elle avait des soucis de santé. On a prié avec Laurence. Et là, il y a des choses qui se règlent. Marcher dans la confiance avec le Seigneur. Pas selon notre volonté, mais selon la sienne. Alors voilà ce que le Seigneur m'avait mis sur le cœur. Je voulais partager. Ce que je peux dire, c'est que le Seigneur Jésus veut prendre soin de nous tous. De toi, de moi, de nous. Mais on ne peut aller à lui que par sa grâce. Que par sa grâce.